Guillaume Guichard, je travaille au Figaro, je m'occupe de protection sociale et je vais animer les deux tables rondes de ce soir. Pour la première, la question « Innovation médicale peut-être être source d'inégalité ?» L'actualité, cette question résonne particulièrement dans l'actualité, avec notamment le médicament qui s'appelle le Sovaldi, du laboratoire américain Gilead, qui soigne très très bien l'hépatite C, sans effet secondaire, c'est formidable. Les médecins espèrent même éradiquer à terme, grâce à ce médicament, l'hépatite C. Le problème, c'est qu'il coûte extrêmement cher, 90 000 euros un traitement de 3 mois. Or, en France, 130 000 personnes ont été dépistées de l'hépatite C. Si vous faites le calcul, on soignera peut-être tout le monde, mais l'assurance maladie pourra faire banqueroute. Alors, comment on choisit qui soigner, à quel prix? Et donc, comment ne pas créer une inégalité dans l'accès aux soins? C'est la question qu'on se pose ce soir, notamment sur l'innovation de la santé. Et nous allons commencer donc avec Florence Jusseau, qui va se présenter rapidement. Et donc, c'est 5 minutes par participant. Je suis désolée, le temps est relativement compté. Merci.
Merci. Donc, moi, je suis professeure à l'Université Paris-Dauphine et vice-présidente du Collège des économistes de la santé. Donc, alors, effectivement, pendant longtemps, en fait, les gains d'espérance de vie étaient essentiellement liés à l'amélioration des conditions de vie, à l'hygiène, et finalement beaucoup plus qu'aux soins. Donc, finalement, on observait de très fortes inégalités sociales de santé, donc des très fortes différences d'espérance de vie entre groupes sociaux, et c'était naturel, hein, lié au poids donc de ces conditions de vie par rapport aux soins. Alors, par contre, depuis les années 70, finalement, les gains que l'on observait en longévité, en qualité de vie, hein, sont beaucoup plus liés aux progrès médicaux et notamment l'avènement de nouveaux traitements donc pour les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ces progrès médicaux, hein, conjugués avec la mise en place de systèmes de protection sociale relativement redistributifs et visant à apporter une couverture universelle, ont permis de réduire les inégalités de santé ou pour le moins de ne pas les augmenter. Alors, en fait, globalement, si on va faire le constat, ce que l'on sait, c'est qu'en France, on a des très fortes différences d'espérance de vie entre les groupes sociaux et que, finalement, ces inégalités, donc on connaît depuis très très longtemps, hein, depuis les travaux de Villermé, par exemple, au XIXe siècle, eh bien, elles ne sont pas en phase de diminution, au contraire, elles semblent s'accroître. Et certains travaux américains ont montré notamment, en regardant l'évolution sur longue période, que les inégalités s'accroissaient pour la mortalité liée aux pathologies pour lesquelles nous avions fait les plus grands progrès médicaux, puisqu'en fait, hein, on a observé des gains d'espérance de vie toujours plus nombreux parmi les groupes les plus favorisés. Alors, en France, on observe des choses un peu comparables. Par exemple, on observe un creusement des inégalités sociales dans la mortalité face au cancer du sein, qui est pourtant une pathologie, par exemple, où initialement l'incidence est plus forte chez les femmes les plus éduquées et pour lequel on a des traitements maintenant très efficaces. Alors, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la réduction des inégalités de santé hein, se retrouve aujourd'hui au cœur de la stratégie nationale de santé. Mais donc, pour pouvoir favorablement trouver des solutions, il s'agit de s'interroger sur la cause de ces phénomènes. Alors, pourquoi on aurait ces inégalités et comment l'innovation peut-elle contribuer? Eh bien, en fait, on sait donc qu'il y a des problèmes d'accès aux soins, donc de fortes différences d'utilisation du système de soins entre groupes sociaux, à besoin de soins donnés, et notamment, on a particulièrement en France, hein, par rapport aux autres pays européens, de très fortes différences dans l'accès aux soins de spécialistes et aux soins préventifs. Or, on sait ces inégalités d'accès aux soins sont liées en partie au fait que les personnes ont un rapport différent à la maladie, mais aussi en raison du coût des soins, hein, puisque par exemple, il y a plus de dépassements d'honoraires pour les soins de spécialistes. C'est lié également à l'inégale répartition des spécialistes sur le territoire, puisque donc on est plus souvent une offre importante parmi les gens les plus favorisés. Et enfin, on sait aussi que les généralistes n'orientent pas de la même manière tous les patients et notamment ils orientent moins fréquemment chez les spécialistes les parents les plus défavorisés. Alors, ce moindre recours aux soins préventifs et aux soins spécialisés, eh bien, ça conduit à avoir finalement moins accès à certaines innovations thérapeutiques qui sont davantage proposées par les spécialistes. Et ça conduit aussi à avoir des patients qui arrivent plus tardivement à l'hôpital et donc dans des états de santé plus avancés et où là, eh bien, certaines techniques innovantes ne sont plus possibles de mettre en place. Alors, par exemple, si on prend le cas de l'insuffisance rénale, eh bien, on sait que l'accès à la greffe est extrêmement inégalitaire, beaucoup moins fréquent chez les patients les moins éduqués, en raison des comorbidités, en raison de leur état. Et donc, ça va être un facteur d'accroissement des inégalités, puisque le fait d'être maintenu en dialyse, eh bien, ça conduit à plus d'exclusion sur le marché du travail, etc. Alors, à côté de ces innovations thérapeutiques, on peut s'interroger sur certaines innovations organisationnelles. Et là, ce que l'on sait, c'est que certaines peuvent, elles aussi, accroître les inégalités. Alors, par exemple, lorsqu'on fait des campagnes de prévention systématique par courrier, eh bien, malheureusement, ça a tendance là aussi à augmenter les inégalités parce que les plus éduqués sont toujours un peu plus réactifs pour répondre à ces invitations. Par contre, on sait que l'introduction d'une organisation plus stricte du parcours des patients et par exemple le gatekeeping, le médecin traitant aurait tendance lui à réduire les inégalités d'accès aux généralistes et dans certains pays où cette orientation est stricte ça conduit à une moindre inégalité face aux soins de spécialistes. Voilà, donc juste pour finir, alors quelques expériences vous montrent aussi quelques résultats du disease management qui semble dans certains cas, quand c'est pensé pour réduire les inégalités d'accès à certains soins, cela peut réduire les inégalités. Donc en conclusion, on pourrait dire que pour que l'innovation ne soit pas facteur d'aggravation des inégalités ou permette même de réduire les inégalités, il semble important que l'on ait pensé dès le départ qu'il y avait ces inégalités qui existent et donc qu'il faut le prendre en compte dans la manière dont on design les programmes ou l'accès au traitement, et au moins pour le moins qu'on évalue les innovations, au moins par groupes sociaux, pour voir ce qu'il en est. Merci.
Merci beaucoup. Lise Rocher, vous allez peut-être nous expliquer les différents types d'innovations de la santé, ce que c'est concrètement, et puis les conséquences que ça peut avoir sur les inégalités d'accès aux soins, notamment, et d'accès à ces innovations.
Bonjour, donc je suis Lise Rogex, je suis professeure à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et par ailleurs titulaire de la chaire à l'École d'économie de Paris, qui s'appelle Ospinomics, et que vous avez pu voir sur le document précédent. Donc je vais essayer de répondre à la question qui était posée. Effectivement, Florence rappelait à l'instant l'importance des innovations organisationnelles, mais celles sur lesquelles finalement on est amené à travailler peut-être de manière plus intense et en particulier pour des instances comme la Haute Autorité de Santé où j'ai travaillé pendant quelques années, ce sont plutôt ce qu'on appelle des innovations technologiques. Et vous faisiez effectivement référence tout à l'heure à un médicament extrêmement coûteux pour lutter contre l'hépatite C et qui finalement va conduire à révéler, à rendre peut-être plus explicite encore l'arbitrage auquel il va falloir faire face, qui est celui de médicaments de plus en plus coûteux, parce qu'effectivement plus personnalisés sur des indications qui sont peut-être plus précises. Je pense au-delà de l'hépatite C, un certain nombre de médicaments dont on dit parfois qu'ils sont de niche et pour lesquels il y a un certain nombre d'enjeux pour le décideur public. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que je me placerai en complément de ce qui a été évoqué, et plutôt finalement à l'hôpital, parce que ces médicaments sont plutôt développés et effectivement distribués dans les pharmacies hospitalières. Et on voit en fait tout l'enjeu du point de vue économique de leur développement, au-delà de la recherche, du fait de les prendre en charge. Mais ça pose des questions importantes dans le futur sur la solidarité nationale et la capacité à faire face aux enjeux financiers qui sont associés à ces développements très importants. Alors, tous les économistes s'entendent pour dire que dans le domaine de la santé, on ne parle pas seulement de consommation, mais aussi d'investissement. Et Jean-François Nys était un des premiers dans les années 80 à rappeler que la santé, ce n'est pas seulement de la consommation, des dépenses, mais c'est aussi de l'investissement. Et je suis persuadée que dans la table ronde suivante, cette question sera évoquée. Mais dans le même temps, le décideur est face à des choix. On sait aujourd'hui que ces choix sont particulièrement scruté au niveau européen en matière de déficit public. Et donc, du coup, il devient indispensable de mettre en œuvre des procédures d'évaluation pour comprendre quelle est la valeur ajoutée de ces médicaments, de ces technologies nouvelles. Pensez, par exemple, à ce qu'on appelle la main ionique, je crois, dont on sait qu'elle est extrêmement chère parce qu'elle est faite sur mesure. Et on comprend qu'un médicament ou un dispositif médical qui est fait sur mesure, par définition, soit beaucoup, beaucoup plus cher qu'un dispositif médical standardisé et pour une population plus large. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses, mais ça pose de vraies grandes questions pour la solidarité collective, dans notre capacité non seulement à faire face, bien sûr, à ces évolutions, à ces innovations, mais dans le même temps, comme le rappelait Florence, à être capable aussi de faire de la prévention, qui a peut-être au moins autant d'importance, voire plus, qui sait, donc dans la société. Ce qui fait qu'il faut non seulement être capable d'évaluer la valeur ajoutée, et c'est tout le travail que nous avons fait avec Luc Baumstark, entre autres, et avec beaucoup d'autres à la Haute Autorité de Santé, qui est d'essayer d'amener progressivement un raisonnement économique qui va mettre en regard les bénéfices du point de vue de la société, avec bien sûr les coûts qui sont associés à chaque nouvelle technologie, pour rendre des avis d'efficience qui vont être finalement au service de la décision de prix par le Comité économique des produits de santé, que ce soit pour les dispositifs médicaux ou pour les médicaments. Et ceci a pour objectif d'éclairer les enjeux, mais il n'en demeure pas moins, pour terminer, rester dans les temps impartis, que du point de vue du décideur public, il sera toujours seul face à cet arbitrage bien difficile qui est d'une part de risquer de mettre finalement trop précocement une nouvelle technologie dont on n'aura pas vu toutes les implications du point de vue de la sécurité, voire même tout simplement une technologie qui n'est pas efficiente et auquel cas ce sont les finances publiques qui seront finalement mises à mal par cette nouvelle technologie, ou à l'inverse, de retarder l'arrivée d'une nouvelle technologie qui, au contraire, aurait à la fois des effets du point de vue de la santé, donc amélioration du bien-être des patients, et peut-être aussi du point de vue des finances publiques. Donc c'est dans tous les cas de figure cet arbitrage qu'il faut éclairer, et plus on est sur des technologies avec de petites populations, plus il est difficile d'évaluer, et je pense que c'est ce que Luc nous dira.
Merci, je crois que j'ai à peine besoin de faire une transition. Donc Luc Baumstark, vous allez peut-être nous expliquer comment justement on évalue la qualité de l'innovation et ce qu'elle peut apporter et sur quelle période, et voilà.
Bien, répondre comme ça à cette question, c'est impossible en 5 minutes. Si vous le voulez bien, je vais évoquer un travail qui a été engagé depuis 10-15 ans sur les outils d'évaluation économique qui cherchent à donner une valeur à ce qui n'a pas de prix. Alors évidemment, quand on se pose ce type de questions, très vite, on se heurte à un certain nombre de difficultés, vous vous imaginez bien. Et là, le thème de notre colloque sur l'innovation médicale peut-elle être source d'inégalité, je vais simplement la reposer d'une manière un peu différente pour vous montrer comment l'économiste peut aborder le sujet. C'est à partir de quel seuil de dépenses publiques considère-t-on qu'un effort collectif n'est plus socialement acceptable? Et la question qui est posée là, vous voyez bien, c'est est-ce que le calcul socio-économique ou l'économiste tout court est-il légitime pour apporter une telle réponse à cette question? Voilà. Nous avons en France une expérience de ces outils d'évaluation, mais son implémentation pose toujours un certain nombre de problèmes et de résistances. La loi de programmation des finances publiques en 2012 a voté un texte tout à fait majeur Et c'est aussi en lien avec ce qui s'est passé à la HAS également, puisque le législateur, dans cette loi, impose l'utilisation de ces outils. Et je vais vous lire l'exposé des motifs de cette loi. L'investissement public est un facteur clé de croissance et de compétitivité. Ça, c'est l'aspect macroéconomique. Donc on dit, voilà, il faut investir, c'est utile. Parce qu'il est aussi garant d'une offre de services publics de qualité. Donc on investit aussi parce qu'on cherche à obtenir un certain nombre d'effets. Ces investissements doivent être choisis avec une attention particulière pour concilier le développement et la maîtrise des finances publiques. Donc le texte met la maîtrise des finances publiques en bout de course, parce que c'est évidemment pas le seul enjeu. Et ce qui est important à retenir, c'est la chose suivante. Les choix d'investissement sont aujourd'hui insuffisamment étayés. Les procédures d'évaluation préalable et le processus de décision ne permettent en effet pas toujours de hiérarchiser les projets et de faire prévaloir ceux qui seront les plus utiles pour la collectivité. Donc cette loi de programmation, évidemment, c'est surtout les investissements. Les décrets viennent d'être sortis. Donc le commissariat général à l'investissement aujourd'hui a engagé toute une série, non seulement d'évaluation, mais aussi de contre-expertise, puisque c'est ça l'enjeu. Le travail qui a été amené, auquel je faisais référence tout à l'heure, cherche donc à donner des référentiels pour un certain nombre de services, de biens qui n'ont pas de traduction marchande. Alors, vous avez la valeur carbone, la valeur de la biodiversité, et puis vous avez aussi la question de comment on valorise le gain en santé. Et pour faire ça, eh bien évidemment, vous êtes obligé de poser un certain nombre de vous engager dans un certain nombre de réflexions qui peuvent heurter. Il s'agit évidemment de trouver une valeur de référence qui permette d'appréhender, par exemple, le gain associé à la diminution du risque de décès. On parle de la vie, de la valeur statistique de la vie humaine. Si vous voulez bien comprendre le sujet, c'est l'effort que la collectivité est prête à consentir pour réduire un risque de mortalité. Voilà. Quelle est cette valeur ? Alors, vous irez voir sur les documents, cette valeur a été augmentée, elle existe. Mais je ne donne pas de chiffres, parce que sinon ça fait le tour et ce n'est pas ça le plus important. Mais on a donné une valeur de référence. Et puis ensuite, vous voyez, on va plus loin, et c'est pour ça que le travail avec Lise à la HAS était intéressant pour moi, parce que si dans le secteur des transports, on travaillait beaucoup sur la question de risque de mortalité, évidemment, ce n'est pas suffisant pour appréhender la question de la valeur du bien santé. L'idée aussi, c'est comment on valorise des gains en espérance de vie. Et puis une fois qu'on a posé cette question, évidemment, on a envie d'aller plus loin et on se dit quid de la qualité de vie, puisqu'évidemment, il ne suffit pas de gagner des années de vie, faut-il encore se préoccuper de la qualité de ces années de vie. Donc vous voyez, je ne vais pas revenir sur les chiffres ni sur les méthodes, ça m'emmènerait évidemment beaucoup trop loin, mais ce processus existe, il est engagé et on peut faire ce type de calcul. Alors, quelle est la légitimité de l'approche économique ? Est-ce qu'en travaillant sur ce type de problématiques, est-ce que l'on ne va pas se substituer finalement à la décision politique? Et c'est ça évidemment qui inquiète le décideur. Alors, juste trois points pour terminer, je pense qu'il y aura une discussion, j'imagine. Le calcul socio-économique n'est pas un instrument de rationnement des soins, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Et je parle bien de calcul socio-économique, donc c'est pas du calcul financier, il s'agit bien de mettre en balance la valeur sociale, l'utilité sociale qui est dégagée par ces investissements et le coût qu'il faut supporter pour pouvoir l'obtenir. Deuxième point, le calcul économique ne donne pas une solution au problème. Ce n'est pas, si vous voulez, une équation et puis on trouve une solution et la décision n'a plus qu'à suivre le résultat évoqué. C'est un, et je pense que c'est très important, et je finirai là-dessus, de bien voir que cet instrument permet d'alimenter un processus d'argumentation. Ça permet d'assurer la cohérence dans les choix. Ça permet de comparer les alternatives pour un même objectif. Ça permet aussi de donner des ordres de grandeur du bien-être social généré au regard des enjeux financiers. Voilà. Donc, si vous voulez, voyez, on est parti d'une question vive qui est de dire est-ce que l'économiste peut alimenter le débat sur l'opportunité d'un certain nombre de décisions. Et ma conclusion est évidemment modeste. Ce n'est pas l'économiste qui va décider, mais je pense que le regard qu'il permet d'obtenir avec ce type d'approche est assez éclairant et permet justement d'alimenter le débat et de préparer la décision. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe dans ce type d'approche.
Je vous remercie. Maintenant vient le temps du grand témoin de la table ronde. Muriel Malbezin, vous êtes directrice de la recherche et de l'innovation à l'Hospice civil de Lyon. Donc vous allez réagir aux différentes interventions que nous avons eues jusqu'à présent. Et donc vous êtes médecin de formation, la seule parmi cette table ronde ce soir, je crois.
Merci. Alors c'est vrai que réagir en tant que témoin, c'est pas simple parce que je ne sais plus trop quelle casquette je dois prendre face à vous tous. Celle peut-être du patient qu'on est tous un jour, celle du médecin prescripteur que j'ai été, celle de l'industriel que j'ai été, celle de maintenant l'accompagnateur d'une recherche académique qui est vraiment probablement aussi une grande source d'innovation. Donc je vais essayer de balayer un peu tout ça et je voudrais commencer par une citation qui est celle de Martin Luther King le 25 mars 1966, donc c'est pas nouveau, et il disait: de toutes les formes d'inégalité, l'injustice en matière de soins médicaux est la plus révoltante et la plus inhumaine. Alors, sans que vous soyez surpris, c'était AIDS qui, bien sûr, reprenait cette phrase, mais je pense qu'elle a, une vraie résonance, parce que c'est vrai qu'il y a des grandes inégalités, y compris dans notre pays, c'est pas forcément facile de l'accepter, et il faut y travailler. Alors si on prend le point de vue du patient, et j'ai bien entendu votre mot médecine préventive, qui est probablement le plus joli mot, la prévention c'est le plus joli mot de la médecine, quelque part, il y a du travail, parce que ça commence par l'éducation. Et je suis frappée de voir le peu de, finalement, d'éducation sur... alors, il n'est pas question de faire des études de médecine au collège, mais quand même, ne serait-ce que sur la compliance des médicaments, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu et qui a un coût. La non-compliance a un coût important. Les associations ont un poids énorme aussi dans les phénomènes économiques et d'inégalité. Et je crois que, j'ai cité AIDS, bien sûr, qui est une des plus emblématiques, et ça rejoint votre propos introductif sur l'hépatite C, qui était pour moi un modèle du genre, parce que on a une maladie qui va guérir, alors qu'elle était effectivement très grave, chronique, avec des conséquences très coûteuses, puisqu'il y avait des cancers, des greffes, enfin c'était pas une maladie anodine. C'est des populations particulières, l'hépatite C, il y a bien sûr la transfusion, mais il y a aussi tout le problème des patients dans les prisons, des patients qui sont aussi atteints du VIH, et c'est donc des populations qui sont à la fois avec, pour certaines, un traitement long, difficile et pas évident en termes de compliance, et puis des populations à risque et des associations très vocales. Sur le plan des industriels, puisque j'ai bien connu ce versant-là aussi, c'est une compétition qui était très inhabituelle. Il y avait, alors que pendant 10 ans, il ne s'était rien passé, brutalement, il y avait un nombre de médicaments en développement, on va dire très salvateur, finalement, pour ces patients. Un temps très court, une demi-vie très courte pour ces médicaments. Et donc, il y a eu un modèle un peu particulier qui s'est développé, avec probablement des excès dans un sens ou dans l'autre. Mais moi, j'aurais envie de dire qu'il y avait eu un vrai besoin médical, il y a eu des réponses. Et quelque part, c'est un bon modèle, puisque c'est un vrai questionnement sur l'avenir de nos modèles de santé, nos modèles aussi d'industrie, et nos modèles d'organisation au niveau de la puissance publique. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel peut-être dans 10 ou 20 ans les étudiants travailleront en disant ils n'ont pas bien géré du tout. Enfin on a fait ce qu'on pouvait quand même. Le médecin, il est clé dans le dispositif. J'ai parlé du patient, mais je pense que le médecin, il est clé parce que il est dans un tournant aussi. On est tous à des tournants, mais il est confronté au savoir de ses patients, parce que 4 patients sur 5 vont sur Internet avant et après la consultation maintenant. Hein. Donc le médecin n'a plus le privilège de la connaissance. Et puis la connaissance, elle est très ouverte. Elle est, on sait qu'il y a de plus en plus de partage hein, d'informations. Et ça, malheureusement, il y a aussi un petit vide juridique autour de tout ça. Ils ont une vraie volonté de soigner, une vraie volonté d'apporter à leurs patients ce qu'il y a de meilleur. Ils n'ont pas encore, eux aussi, ils ont un problème d'éducation sur l'économie. Hein. Ils n'ont pas forcément appris pendant leurs études, hein. C'est un peu nouveau. Ils ne sont pas non plus très formés à l'évaluation encore, hein. La leur, par exemple, aussi. Moi, j'ai été frappée quand j'ai entendu qu'en Suède, il y avait une expérience pilote pour vérifier si un acte chirurgical était efficient ou pas sur un plan... on va dire bénéfice pour le patient. La question était très simple, est-ce que vous allez mieux avant, enfin après qu'avant ? Et c'était posé au patient 6 mois après. Et eh bien, si la réponse était négative, le médecin avait 40% de ses émoluments qui étaient supprimés. Vous imaginez ça en France ? Waouh !
Ça va être payé au résultat.
Voilà. Donc, je pense que. Bon, il y a énormément de travail encore à réaliser et c'est un sujet qui va nous occuper pas mal hein, ces prochaines années. Voilà, merci.
Donc on est au tout début. Voilà, on va passer maintenant aux questions de la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, je lance avec une première question si personne veut se lancer avant moi. Personne. Bon. Vous avez dit, le politique, au final, est le seul à pouvoir prendre une décision. La question que je me pose, c'est est-ce que le politique veut prendre cette décision ? Et est-ce que jusqu'à présent, en France, l'a-t-il prise ? Est-ce qu'il y a d'autres pays où il l'a déjà prise, où il a déjà pris ce genre de décision, savoir faire accéder à une innovation de santé, enfin donner accès à une innovation de santé à des patients ? Et puis pour en garantir l'égalité d'accès à ce traitement, parce que peut-être que dans certains pays, il suffit de payer pour avoir accès, mais pas en France.
C'est une belle question, je vous remercie de me donner la parole en premier. Je suis sûre qu'autour de la table, il y aura d'autres personnes qui auront envie de réagir. Mais c'est vrai que pendant les 7 années où j'étais au collège de la Haute Autorité de Santé, j'ai donc côtoyé le décideur, puisque la Haute Autorité de Santé, c'est une instance qui donne des avis, mais qui ne décide pas. Et de fait, la question que vous posez, qui est de savoir si le décideur a envie de décider, la réponse, elle est clairement non. Chaque innovation est porteuse d'espoir. Et donc, reconnaître que malgré ce qui figure dans la loi, à un moment donné, on sera obligé d'établir des priorités. Parce qu'effectivement, quand on voit le prix des médicaments, il va falloir aller sur ce qui est le plus efficient, sans pouvoir peut-être donner à chacun, par exemple, cette main ionique dont je parlais, qui vaut 30 000 euros, et dont on voit que le remboursement aujourd'hui est très limité, on voit bien que ces choix nous rattrapent. On a imaginé toutes sortes de solutions pour contourner la rareté. On a pensé, par exemple, que la croissance serait au rendez-vous. On a pensé que le gaspillage serait réduit au point de vous permettre de faire face à ces innovations très coûteuses. On a pensé qu'on pourrait s'endetter autant de choses qu'on a faites. Mais je crois qu'aujourd'hui, il va falloir être peut-être plus explicite sur ce qui a le plus de valeur du point de vue de la société, d'où l'importance de ce qu'évoquait Luc Baumstark dans cette priorisation. Mais il n'a absolument pas envie, le décideur, de rendre ceci explicite.
Oui, alors concernant les questions de qui a accès ou pas à ces innovations en général, je crois aussi que le décideur, même si, donc, comme je le disais aujourd'hui, dans la stratégie nationale de santé, la réduction des inégalités sociales face à la maladie et la mort sont un objectif explicite, je ne sais pas non plus si on est au stade de vouloir décider pour réfléchir vraiment à des priorités dans ce sens. Et on a un petit peu l'illusion que si des biens sont disponibles, eh bien, il y a une universalité d'accès dans ce pays. Et comme c'est posé dans la loi, on n'a pas vraiment envie de regarder en face les différences qui existent. Et donc, comme je le disais, d'en prendre pleinement conscience pour se dire, ben, si on veut les réduire, peut-être qu'il faut être proactif. Hein. Certains chercheurs disent que notre système construit par omission des inégalités, par omission, par déni de leur existence. Et donc, du coup, effectivement, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait à la phase d'un constat qui serait proactif vers plus de recherche d'équité dans la distribution des innovations, quelles qu'elles soient.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que le calcul économique a une vertu, c'est qu'il rend explicite, et souvent de manière assez brutale, un certain nombre de questions. Alors c'est normal qu'un décideur n'ait pas envie de se retrouver face à ce type de travaux, parce qu'ensuite il faut pouvoir assumer le fait que, d'abord, le calcul, on peut se tromper aussi, hein, enfin, supposons. Mais des fois, on dit, enfin, à l'HS, on a vu circuler un certain nombre de dossiers. Voilà, on a des ordres de grandeur, on voit à peu près un certain nombre d'enjeux. Bon. Et donc, effectivement, c'est plus. Le politique peut penser souhaitable de garder des marges de manœuvre pour ne pas être amené à se positionner, face au débat public sur ces sujets qui souvent sont très sensibles, font l'objet de lobbying, des associations, et puis tout simplement, c'est, pour chacun d'entre nous, c'est des choses évidemment qui sont toujours difficiles et pénibles à évoquer. Cela étant, moi je trouve, même s'il y a un certain nombre de critiques, et je les entends, mais ce que fait le NICE en Angleterre est assez intéressant. Voilà, vous avez avec le QALY un indicateur, il vaut ce qu'il vaut, et vous arrivez à positionner les différentes options qui peuvent exister pour une même maladie ou éventuellement pour mettre en regard différentes stratégies. Et c'est vrai que quand vous montrez qu'une option a un gain par QALY qui est très très élevé, c'est... Alors oui, excusez-moi. Le QALY est en fait un indicateur qui permet de pondérer les gains en santé. Donc si vous êtes dans une situation de très bonne santé, le gain en santé est multiplié par 1. Et si vous êtes au contraire dans une situation proche de la mort, eh bien, c'est le coefficient devient 0. Et en faisant vous pondérez en fait les différents gains en santé par cet indicateur-là. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pas tellement ce qui est important, c'est de ramener un projet par rapport à le nombre d'euros ou de livres ou de dollars qu'il faut dépenser pour obtenir un QALY. Et en faisant ça, eh bien, vous arrivez à comparer un certain nombre d'options. Je rebondis juste sur ce que disait Lise, parce que là, on est en phase, évidemment, sur ce sujet. Mais ce qu'il faut bien mesurer par rapport aux questions d'égalité qu'on évoque, c'est que si vous acceptez de dépenser des sommes considérables sur une innovation parce qu'elle vous apparaît utile, parce que, de fait, les médecins vont vous montrer qu'il y a des effets cliniques favorables, etc., ce qu'il faut voir, c'est que cette masse financière-là, elle ne sera pas investie ailleurs. Et la question de l'égalité, ça va être aussi à ceux qui, de ce fait, ne bénéficieront pas d'autres stratégies. Et je pense que la prochaine table ronde évoquera la question du prix des molécules d'un côté et la question aussi de réorganisation sur la prévention, comme on évoquait tout à l'heure, ou voire un problème de réorganisation qui peut aussi dégager des gains extrêmement importants. Mais vous voyez, je crois que là, dans le débat, c'est important, compte tenu de l'état des finances publiques aujourd'hui, de pouvoir évoquer ces grands enjeux. Puis ensuite, ma foi, il y a évidemment des impératifs, et ça, c'est le politique, c'est son job que d'assumer les différentes contraintes auxquelles il doit faire face.
Vous avez répondu par anticipation au rebond auquel je pensais, c'est-à-dire une innovation peut-elle empêcher l'accès à une autre innovation, comme les ressources financières sont rares, surtout en ce moment. Vous vouliez réagir peut-être, Anne ?
Je réagirais volontiers sur le NICE, parce que ce sont les premiers qui ont mis en place...
On peut définir le NICE aussi.
Ah, le NICE. Alors...
Ça tombe sur vous.
Allez-y, non ? C'est l'équivalent de notre CEPS, en fait, hein, donc Commission d'évaluation du prix des produits de santé. c'est une commission qui évalue et qui fixe le prix des produits en Angleterre et qui avait, il y a déjà presque une dizaine d'années, ils ont mis en place un système de remboursement en cas d'inefficacité pour certains produits, y compris dans des pathologies graves comme en hématologie. Et je pense que ce type de risque partagé, c'est quelque part une décision politique. Alors, les politiques, certes, ils ont un problème d'éthique hein, sur ce type de décision, comme tout le monde. Je dirais qu'en attendant, dans les hôpitaux, par exemple, on fait des commissions d'innovation où on va sur une enveloppe budgétaire forcément restreinte et fixée. On va faire un ranking des produits. On va avoir une évaluation, bien sûr, très scientifique d'efficience et puis de tolérance. Et on a toujours cet aspect de sécurité en tête, en primum non nocere, mais quelque part, les patients de temps en temps nous disent aussi la sécurité, c'est leur affaire, le bénéfice, le risque, il n'y a qu'eux qui peuvent l'évaluer.
Des questions dans la salle ?
Oui, s'il vous plaît.
On va en prendre plusieurs d'un coup, et puis après.
Ma question, c'est justement sur le prix des médicaments. Vous avez parlé d'un médicament très cher. Qu'est-ce qui justifie son prix ? Est-ce que c'est parce que c'est un laboratoire privé ? Qu'il a fait, qu'il a développé pour obtenir un bénéfice et l'exploiter et obtenir beaucoup là-dessus ? Ou est-ce qu'on met la priorité sur la recherche d'État, la recherche qui est en principe faite pour servir à tout le monde, et là, ça reviendrait moins cher ? Donc, il y a aussi ce côté-là qu'il faut envisager.
Merci. On va prendre plusieurs questions et on répondra ensuite.
Deuxième question. Daniel Moynier, je suis... écrivain et économiste et en ressources humaines également. Voilà, on a 22 ans de plus de durée de vie depuis la guerre. Et tout le monde veut vivre plus longtemps, donc les recherches, l'innovation le fait aussi. En fait, tout le monde, par tous les moyens, par le sport, par tout ce qu'on veut. Par contre, on oublie que... j'oubliais aussi de dire qu'on gagne 7 heures à 7 heures et demie de plus par jour de durée de vie. Et on oublie les moyens. Donc on manque de moyens, on le sait, au niveau de l'État. Et les moyens, moi j'ai fait les calculs, il manque à peu près 11 000 heures de travail par personne sur la durée de vie pour qu'on soit en équilibre. Alors ça ne vous concerne peut-être pas, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là.
Ça veut dire quoi ? J'ai mal compris. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner 35 heures ?
Le calcul est fait par beaucoup de pays européens, entre autres. Si vous prenez l'Australie, ils ont voté 70 ans, la Suède, Norvège, soit 67 ans, et ainsi de suite. Une année de gagner, c'est 60 milliards.
Merci. Une troisième question, et après on répond et on prendra un autre.
Bonsoir. Ma question, ça serait vis-à-vis des professeurs en économie de santé. Quels sont pour vous les enjeux les plus pressants du point de vue du travail académique pour apporter des méthodes et des outils qui soient les plus efficaces possibles pour les décideurs publics ?
Merci. On va prendre les trois questions, on va les prendre peut-être dans l'ordre. Pour commencer, qu'est-ce qui justifie donc le prix d'un médicament, et notamment celui du Sovaldi peut-être à 56 000 euros en France ? Qui veut répondre en premier ? Lise encore.
On fait chacun son tour, donc je commence, c'est tout. Alors c'est bien sûr une question absolument majeure. Je vais être honnête et je répondrai du coup aussi à la troisième intervention. Je pense que s'il y a bien un domaine où l'économie industrielle peut apporter des éclairages sur des questions de fixation des prix des médicaments qui sont aujourd'hui en grande partie interdépendants entre la plupart des pays développés. Pour les médicaments les plus innovants, en tout cas, on est quasiment sur des prix qui sont fixés en lien avec d'autres pays. Donc, il y a cette interdépendance. Il y a vraiment des très, très belles choses à faire du point de vue théorique en économie industrielle. Mais pour revenir à la question, la première, on a vu cette évolution vers une forme de médecine personnalisée qui conduit à définir des médicaments, je l'évoquais tout à l'heure, sur des niches qui peuvent être définies dans un premier temps par le laboratoire pour obtenir un prix très important, parce que justement c'est une niche, et qui dans un deuxième temps peuvent aller vers une extension de l'indication et donc
aller finalement vers une population beaucoup plus large. Et cette technique a été développée de plus en plus et explique en partie la situation dans laquelle on se trouve, mais seulement en partie, parce que les biosimilaires sont aussi très coûteux. C'est un grand débat, la question des biosimilaires, qui est un peu l'équivalent des génériques, mais pour des médicaments pas tout à fait équivalent. Il y a toute une question sur le fait de savoir s'ils sont ou pas similaires. Mais dans tous les cas de figure, ce sont des médicaments qui sont sur des petites populations et pour lesquels les laboratoires demandent aujourd'hui des prix extrêmement élevés. Et donc, toute la difficulté pour le régulateur, c'est d'accepter finalement un prix élevé parce que sinon, le marché n'est pas servi, le patient n'a pas accès aux médicaments. Le laboratoire ne commercialise pas ce médicament dans le pays. Et en même temps, on voit cette extension d'indication qui fait que progressivement, ce prix très élevé s'applique à des populations qui sont de moins en moins petites. Donc, je pense que c'est un enjeu de demain que d'arriver à travailler sur la fixation du prix du médicament.
Peut-être Muriel Malbezin, vous avez travaillé notamment dans des laboratoires. Peut-être.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, si ce n'est que depuis quelques années quand même, la population cible est vraiment bien définie normalement et que dès qu'elle est dépassée, le prix est réévalué en principe. On est bien d'accord. Je suis tout à fait aussi en phase avec l'analyse qui fait que un prix, c'est pas décidé au niveau d'un pays, c'est décidé au niveau du monde, et c'est souvent les États-Unis en fait qui drive le prix initial, et après l'Europe essaye de s'adapter plus ou moins bien, avec encore une très grande hétérogénéité qui, j'espère, dans le futur va s'atténuer avec le système européen de fixation des prix qui peut-être un jour pourra se mettre en place, mais c'est pas si simple. Alors, je peux peut-être enchaîner, oui, sur quelle part pour l'un et pour l'autre. J'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quand même, on va dire, la plupart des médicaments sont issus de la recherche privée. Par contre, il faut savoir que la recherche académique est très active et je peux dire qu'il y a environ 60% des essais cliniques en France qui sont menés par des académiques et 40% pour la recherche industrielle. Mais la France n'est plus tout à fait un pays leader en termes de recherche clinique, il faut avoir ça en tête. Nous sommes un petit peu dans une courbe inquiétante et descendante. Ça fait aussi partie du problème de l'innovation, parce que avant d'arriver sur le marché, les molécules sont en développement et dans les essais cliniques, et c'est une chance peut-être pour des patients qui, s'ils ne les ont pas, vont mourir. Donc que la France ne soit plus tout à fait dans la course, c'est inquiétant, c'est vrai.
Oui, mais c'était pour apporter un éclairage à la deuxième question qui a été posée. Effectivement, on a connu un très grand allongement de la durée de vie depuis la guerre, mais la question n'est pas seulement de savoir quel est le nombre d'années qu'on a gagné, mais aussi dans quel état de santé. Et effectivement, on sait qu'on a un allongement de l'espérance de vie en bonne santé, mais quand même un rythme moindre. Donc on ne gagne pas des années en très très mauvais état de santé, mais enfin on gagne aussi des années avec des limitations dans les activités et notamment des limitations sur le marché du travail. Donc la question n'est pas simplement celle des 35 heures, de l'âge du départ à la retraite, elle est aussi la question de savoir si les personnes sont en état de continuer à travailler et jusqu'à quel âge. Et donc là, ça rejoint aussi la question de l'accès aux progrès médicaux et à l'ensemble de ces innovations. Alors, pour permettre aux gens d'être en meilleure santé ou d'avoir des dispositifs qui les permettent de continuer à travailler, même si on prend les pays du Nord, ils travaillent beaucoup sur le fait aussi de rendre les postes de travail adaptables pour que les personnes puissent travailler jusqu'à 67 ans. Donc ça peut être aussi des innovations de ce type-là sur les lieux de travail pour mieux aller travail et santé.
Bon, du coup, parce que sur le prix, bon, je pense que l'essentiel a été dit. C'est un vaste sujet, en fait. Je voudrais revenir peut-être sur la troisième question, ce qui me permettra de rebondir sur sur des conclusions que le travail que j'évoquais tout à l'heure a focalisé, à mon avis, à fort juste raison. C'est que, vous voyez, aujourd'hui, dans les outils que je vous ai présentés, ce que l'on fait est assez frustre, en fait. C'est-à-dire que si on veut descendre à un niveau, je dirais, plus fin, pour qu'on puisse prendre en compte un certain nombre de réalités, eh bien, il y a des travaux à la fois théoriques, mais surtout empiriques à faire. D'abord, il faut d'abord avoir les données. Donc déjà, il y a tout un travail sur la capacité à capitaliser un certain nombre de données. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un problème de méthode, tout simplement. On était avec Lise il n'y a pas très longtemps à Bordeaux, où on a vu un certain nombre de chargés d'études nous présenter un certain nombre de mise en œuvre des outils dans les études, par exemple sur un hôpital. Pour traiter ce type de questions, et le commissariat général à l'investissement met en exergue la question justement de l'évaluation des investissements dans l'infrastructure hospitalière, par exemple. Et on voit bien que là, ça devient quand même assez vite complexe. Donc il y a des choses qui existent avec une comptabilité analytique ou des choses qui peuvent se faire dans les hôpitaux. Mais vous voyez, quand vous voulez aborder la question de la valorisation, je dirais, du gain en santé, de l'utilité sociale, par exemple, apportée par un hôpital, vous voyez bien qu'on est face à des enjeux qui sont assez complexes. Alors, les méthodes existent, les travaux existent, et pour répondre donc directement à votre question sur quelle est aujourd'hui, quelles sont les priorités, eh bien, la conclusion qu'on a dans le rapport Kinet, donc qui est le dernier rapport qui fait un peu la synthèse sur ces outils, c'est justement de dire que l'enjeu est peut-être moins d'aller sur de la sophistication théorique dans les outils que dans, je dirais, la mise en œuvre opérationnelle de ces outils. Parce qu'en fait, la mise en œuvre pose elle-même toute une série de difficultés. L'intérêt du Guidelines de l'AHS, je vous invite à aller voir ce travail, parce que je crois que c'est deux ans dans lequel on a collaboré justement avec les industriels. L'idée, c'est aussi que cet outil soit approprié, soit compréhensible, que les points qui font difficulté soient discutés, mais qu'ensuite ça devient un élément, un langage commun. Et je pense que le travail des guidelines, alors il y a celui de l'HS, mais vous en trouvez celui du NICE, mais même dans toutes les administrations aujourd'hui, on cherche justement à donner la méthode sur laquelle on s'accorde pour traiter un certain nombre de choses. Même si on estime que ces points peuvent faire difficulté, on se met d'accord sur une méthode, parce que sinon chacun fabrique sa propre méthode, et en fait alors que le calcul est justement là pour essayer d'avoir un regard commun sur un certain nombre de réalités, en fait si vous n'avez pas ces guidelines, vous avez en fait un bruit et avec une impossibilité justement d'avancer dans la compréhension des enjeux. Donc voilà, mon sentiment au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que les académiques s'emparent de cette question de la mise en œuvre de ces outils, et ça ne se fera pas sans une collaboration très forte avec les industriels, avec l'administration du pays, avec les collectivités territoriales. Je pense que là, il y a tout un enjeu à maîtriser.
Voilà. Voilà, peut-être concernant la recherche. Moi, je pense, et je pense que Lise Rochex partagera aussi cette idée, que nous avons aussi un besoin d'évaluation des politiques et des interventions, en tout cas dans le domaine des inégalités d'accès aux soins. On a maintenant une bonne idée du constat, on a plusieurs hypothèses sur les diverses causes. Ce qui nous manque, c'est une véritable évaluation de beaucoup d'interventions qui sont menées, et pour comprendre ce qui fait notamment qu'une innovation est diffusée ou n'est pas diffusée. Voilà.
Merci. Eh bien, je crois qu'il est exactement 18h15. Ou alors on peut quand même prendre une question, oui.
Oui, alors il a été évoqué forcément l'amélioration des outils. Il a été brièvement évoqué aussi l'enjeu des données sources sur lesquelles sont mis en œuvre tous ces outils. Parce que de plus en plus, on s'aperçoit, et encore régulièrement, on a assisté au retour de la mise en œuvre et de l'opérationnalité du décret d'application des évaluations médico-économiques. Mais on sent bien qu'à un moment donné, des réflexions sont menées sur la sophistication des moyens pour évaluer. Mais on sent bien qu'à un moment donné, on touche aussi à la limite des données sources et de l'evidence base dans lequel on peut avoir un certain nombre d'informations. On a la chance en France d'avoir on va dire, une énorme base de données, le SNIRAM, le PMSI et bien d'autres, mais ce sont des données qui sont actuellement fermées, dans lesquelles on est dans des projets actuellement commandités par Marisol Touraine sur la réflexion de la réouverture des données. Et je serais très intéressée par avoir vos positions sur le sujet.
L'ouverture des bases de données pour améliorer l'accès aux innovations et mesurer leur efficacité. Est-ce qu'on prend une deuxième question ? On prend une deuxième question et puis voilà.
Merci. Alors je vais enchaîner aussi sur l'évaluation, effectivement, la nécessaire évaluation des politiques publiques, des politiques de santé, l'évaluation des médicaments, l'évaluation des interventions. Tout ça est très, très sophistiqué. Je crois que ça fait quand même pas mal de temps quand même qu'il y a pas mal d'économistes qui travaillent sur l'évaluation. Mais est-ce que l'évaluation, de toute façon, ne fera pas toujours débat ? Et les résultats de l'évaluation ne feront pas toujours débat ? Et du coup, est-ce que la question, c'est pas plutôt que le système n'a plus de marge de manœuvre ? Et finalement, s'il y avait des marges de manœuvre et des marges financières, peut-être qu'on pourrait se permettre un peu plus d'innovation et de prise de risque. Et du coup, ma dernière question sera peut-être pour vous challenger les uns et les autres. Quelles mesures seraient pour vous à préconiser, à mettre en œuvre pour retrouver des marges de manœuvre financières dans le système de santé ?
Vaste question, comme on dit. Qui veut répondre en premier ?
Sur les données, c'est pour moi, les données, c'est un bien collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tous les États, l'important pour les politiques publiques, c'est justement d'investir dans des données de qualité. Ça coûte cher, les données. Et en fait, quand vous êtes dans des restrictions budgétaires, souvent dans les administrations, les services qui sont les premiers, qui font l'objet de restrictions fortes, c'est souvent ces services. Et je pense que là, il y a là une grave erreur. Et c'est pas simplement sur le secteur de la santé, hein, c'est dans tous les secteurs. Voilà. Si vous prenez les agences de régulation dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des télécommunications, etc., si vous allez sur leur site, vous allez bien voir que le vrai problème, c'est la capacité d'expertise et donc la qualité des données. Et tout processus de régulation suppose que ce problème est véritablement réglé. Et la difficulté, c'est que ces données, elles font aussi l'objet, je dirais, de secrets commerciaux, de secrets y compris scientifiques. Et on comprend bien que l'accès à ces données peut, dans un certain nombre de cas, poser problème. Alors, Lise pourra dire un petit peu à la HAS comment ces questions, dans les dialogues avec éventuellement les laboratoires, comment tout ça se peut se traiter. Mais ce qui est sûr, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, réfléchir sur une allocation optimal, c'est un bien grand mot, mais c'est notre jargon, à s'interroger sur l'allocation aujourd'hui dans le système de santé, parce qu'on investit, je suis d'accord, hein, on perd les marges de manœuvre, mais enfin on investit quand même des sommes tout à fait considérables. Et donc la question de savoir si ces sommes qu'on engage, il y a une véritable utilité, c'est-à-dire que ça produit véritablement de la richesse, hein, et qu'on ne détruit pas de la richesse en faisant cette allocation-là, on ne pourra pas répondre à la question sans avoir une certaine transparence sur toute une série de données. Là, il y a là un enjeu politique majeur. Voilà, ça c'est très clair.
Merci.
Et donc, j'essaierai de répondre non pas à la toute dernière question de Claire Bully, mais en l'occurrence, le premier point sur lequel, en fait, je pense que je ne suis pas d'accord. Parce que je crois que s'il y a un moment où on a besoin d'évaluation, c'est quand on est dans le mur. C'est pas du tout ce que tu indiquais, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on peut plus se permettre de faire de l'évaluation parce qu'on est dans le mur. Moi, je répondrais à l'inverse, si j'ai bien compris, que c'est justement maintenant qu'il le faut pour faire les bons choix. Maintenant qu'on a compris qu'il fallait faire des choix, faisons les bons choix et pour cela, faisons de l'évaluation. Donc, je crois que c'est pas un luxe, l'évaluation. C'est juste la seule façon de faire des choix qui ne sont pas du rationnement,
mais vraiment d'essayer de trouver les meilleurs investissements pour demain. Donc c'est dommage qu'on n'en ait fait pas plus avant. On a fait beaucoup de théories, on a écrit des bouquins, mais on ne l'a pas mis en pratique. Ça revient à ce que disait Luc tout à l'heure. Aujourd'hui, ce dont il faut se préoccuper, ce n'est pas tant les guides méthodologiques, on les a, que tu appelles des guidelines, mais qui sont des guides méthodologiques. On les a produits, ils sont présents. Ce qu'il faut, c'est que les acteurs de terrain s'en emparent pour éclairer les bonnes décisions, sachant que aujourd'hui, la rareté est devenue un phénomène explicite. Jusque-là, on imaginait qu'on pourrait toujours trouver une solution. Maintenant qu'on est dans le mur, eh bien, faisons de l'évaluation.
Oui, alors moi, je crois que je ne suis pas d'accord non plus sur l'idée que l'on ait énormément d'évaluation. Parce que, effectivement, alors si on pense, par exemple, aux innovations organisationnelles, alors là, on a finalement assez peu d'évaluation. Et finalement, les politiques sont souvent mises en place avant même qu'on ait les résultats sur l'évaluation. Et quand on parle des évaluations, on a souvent une évaluation ex poste de quelque chose qui a été généralisé tout de suite. Je pense par exemple à la réforme du médecin traitant, hein, ou l'introduction des ROSP, des ex-CAPI, hein, des paiements à la performance qui ont été introduits pour rémunérer les bonnes pratiques en médecine ambulatoire. Et donc, malheureusement, on n'a pas expérimenté ça. Initialement, quand je parle d'évaluation, ça serait une évaluation, par exemple, randomisée, comme on le fait pour un médicament, et qui permette, ça peut être une méthode, hein, mais de véritablement voir s'il y a un gain par rapport à un placebo, entre guillemets, qui n'aurait pas connu cette évaluation. Donc, je pense que on a quand même besoin de ça, et d'autant plus, effectivement, dans un contexte où les ressources sont plus rares.
Que l'innovation n'était pas un luxe, je dirais que la recherche non plus, c'est pas un luxe. Par contre, quand vous êtes dans... L'évaluation. Et c'est vrai que quand on considère un budget dans un hôpital, il faut négocier, et je crois que c'est là qu'il y a une certaine prise de risque qu'il faut accepter de prendre, vraiment. Je suis très inquiète de l'aspect base de données. Alors, c'est vrai que notre base CNIRAM est considérable. Il faut quand même être réaliste. Je crois que d'autres pays commencent à avoir des choses très jolies aussi. On est peut-être un peu trop confiant. Et je pense aussi que des entreprises comme Google sont en train déjà de mener des opérations de très grande envergure qui font que dans quelques années, on sera complètement dépassé. Donc, le train est déjà en marche là-dessus.
Merci à tous.